Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous raconter de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Youssouf Kalla ouvre le sommet international sur l'islam modéré. La coopération IACEPA est conçue pour être plus moderne. La marine va transférer des technologies aux Philippines. Visiter la Hollande, Ganjar, représentant l'Indonésie, va parler de la gestion des catastrophes. Zulkifli Hassan soutient la préservation du batik. Et enfin, les investisseurs de la Nouvelle-Zélande se sont intéressés à l'investissement de l'élevage de bœufs. Voici le journal complet. Le vice-président Youssouf Kalla ouvre le sommet international du modèle islamique à Balai Sidang, Jakarta, ce lundi. Ce sommet est tenu pour la première fois à Jakarta comme un effort d'influencer les politiques publiques dans la solution des problèmes de radicalisme et de terrorisme. Le président de Nahdlatul Ulama, Aqil Siroj, a déclaré lundi à Jakarta, le sommet international était assisté par les ulémas de Nahdlatul Ulama, des représentants de 33 pays étrangers, ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs des pays islamiques qui visent à créer la paix dans les pays dans la zone du Moyen-Orient. Saïd Aqil Siroj a ajouté, le conseil d'administration de Nahdlatul Ulama obtenait un message du président Joko Widodo pour organiser le sommet pour sachez le radicalisme en Indonésie et des pays voisins. Dans la troisième série de négociations de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, on est d'accord que la forme de coopération économique sera conçue pour être plus moderne et complète. Le président du groupe négociateur d'Indonésie, Dedi Saleh, a déclaré dimanche qu'en conformément à l'accord du ministre du Commerce, l'Indonésie et l'Australie ont convenu que le partenariat économique global Indonésie-Australie était la forme de la coopération économique globale et moderne, n'est pas l'accord de libre-échange traditionnel. Selon Dedi Saleh, la forme de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie serait mutuellement bénéfique et réalisable en produisant un accord préliminaire qui peut être réalisé immédiatement. La marine indonésienne donnera le transfert de technologies opérationnelles de navires de guerre stratégiques Sea Life Vessel BRP Tarlac au gouvernement philippin. Selon le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ades Pandi, la participation de la marine indonésienne est nécessaire comme une forme de contrôle sur le processus de transfert de technologies. Ade Supandi a dit au port de Tanjung Perak, Surabaya, dimanche que le processus de transfert de connaissances pour la marine philippine était une forme d'apprentissage parce qu'il est un nouveau navire de guerre. Selon Ade Supandi, qui est également le commissaire du PT PAL Indonesia, Strategic Sealift Vessel est le premier navire de guerre qui est exporté par l'Indonésie. À l'avenir, PTPAL ciblera les pays d'Asie du Sud-Est car le type stratégique s'y livre est convient pour la nation insulaire. Le gouverneur de Java Central, Ganjang Pranowo, représentant l'Indonésie, parle à la conférence internationale sur l'adaptation des changements climatiques organisée par la Commission européenne et le gouvernement néerlandais à Notre-Dame. Ganjang Pranowo sera l'un des 10 leaders mondiaux qui parlera de la gestion des catastrophes. Le gouverneur Ganjang Pranowo a dit le dimanche qu'il partagera des expériences sur la gestion des risques des catastrophes qui est expérimentée et sera faite. L'expérience sera utilisée comme une référence commune dans le monde. La conférence internationale sur l'adaptation des changements climatiques est une réunion stratégique des dirigeants et des activistes de la catastrophe dans une variété de disciplines scientifiques de divers pays. La conférence a débuté le 7 mai et terminera le 14 mai. Le président de l'Assemblée consultative populaire de l'Indonésie, Zulkifli Hasan, invite les Indonésiens à préserver le batik, en particulier le batik tulis. Zulkifli Hasan a conseillé aux artisans du batik d'unir dans l'organisation. Avec l'organisation, ils seront forts dans les efforts de se battre pour ces affaires. C'est ce qu'a affirmé Zulkifli Hasan lors de visiter le village de Batik Wira Desa à Pekalongan, Java Central, dimanche. À cette occasion, Zulkifli Hasan a dit « Le batik indonésien a été inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à la 40e session du comité intergouvernemental à Abu Dhabi en 2009. » Ce prix montre que le batik est un travail remarquable. Le Conseil de coordination des investissements, BKPM, a identifié l'intérêt des investisseurs néo-zélandais dans trois secteurs principaux d'investissement tels que le secteur du service soutenant la santé, le secteur de l'infrastructure, le traitement de l'eau basé sur les énergies renouvelables et le secteur de l'élevage de bœuf. Le chef de BKPM, Frankie Sibarani, dans un communiqué de presse le dimanche, a dit que le secteur intéressé était l'identification d'une visite de travail de 2 jours à ce pays. Il a expliqué qu'il y avait 3 entreprises des secteurs de services soutenant la santé, les infrastructures et le secteur agricole qui ont exprimé leur intérêt à investir en Indonésie. Il a ajouté qu'une entreprise de l'industrie de transformation du lait de la Nouvelle-Zélande, Fonterra, a également affirmé son projet d'élargir ses investissements en Indonésie. Il a expliqué que les intérêts de l'investissement pour le secteur des services soutenant la santé étaient entre autres les laboratoires cliniques. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, écoutons maintenant le commentaire aujourd'hui intitulé « Est-ce que les grandes lignes de la politique du gouvernement seront appliquées à nouveau ?» Il y a une idée que l'Indonésie va appliquer à nouveau les grandes lignes de la politique du gouvernement, ou GBHN, comme à l'époque de Nouvel Ordre. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPR, Zulkifli Hasan, a dit cité par Antara récemment qu'à présent, toutes les factions et groupes de DPD en MPR avaient accepté de faire revivre GBHN par des amendements constitutionnels. Selon Zulkifli, l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPR, à ce moment, continue à solliciter les commentaires des différents éléments de la communauté par le groupe de discussion dans les grandes villes. Dans ce cas, le MPR travaille avec environ 50 universités publiques et privées dans toute l'Indonésie. Pendant le Nouvel Ordre, GBHN est la ligne directrice du développement national à moyen terme et long terme, établie par l'Assemblée consultative du peuple indonésien MPR, comme l'institution suprême de l'État. Le président, comme le mandataire de MPR à cette époque, doit exécuter GBHN. Si le président ne suit pas ou viole les lignes directrices, l'Assemblée peut révoquer le président. Mais depuis 2007, les lignes directrices ne sont plus utilisées comme référence pour les remplacer. Le système de développement après la réforme est fait par le plan de développement national à long terme ou RPGPN pendant 20 ans. Ceci est la référence au développement quinquennal appelé le plan national de développement à moyen terme ou RPGMN qui guide les ministères et les institutions dans la préparation d'un plan stratégique. Est aussi comme le matériel de préparation et les ajustements du plan de développement à moyen terme et les lignes directrices du gouvernement dans la rédaction du plan de travail du gouvernement. Le désir pour appliquer à nouveau des lignes directrices causées par la déception de nombreux partis sur le processus de développement étant considéré trop compte sur la perspective limitée du président ou chef régional. Et le processus de développement n'indique pas la synergie entre le gouvernement central et la région depuis la mise en œuvre de l'autonomie régionale. Avec l'autonomie, la région a le pouvoir plus grand. Par conséquent, le gouvernement central ne peut plus dicter lié au programme de développement. Le gouvernement local, au nom de l'autonomie régionale, ne respecte pas l'ordre du jour national. Les grandes lignes de la politique du gouvernement ou GBHN conduisent tous ceux qui sont dans le gouvernement ne sortent pas de la ligne dans la prise des décisions ou faire de la politique. Malheureusement, GBHN sont trop normatives et non détaillées. Selon les observateurs, le développement du pays n'est pas si efficace si le développement s'y réfère aux plans qui ont une valeur normative. En fait, le plan national de développement à moyen terme est plus détaillé que GBHN. Peut-être que les lignes directrices ne sont pas vraiment nécessaires, parce que la chose la plus importante est de créer des synergies entre les centres et les régions. Chers amis, c'était notre commentaire aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 mai 2012, Sukai Superjet 100 s'est écrasé sur le Mont Salak à Bogor, Java West. Il s'est écrasé lors d'un vol de démonstration au Joy Flight. Sukai Superjet 100 a décollé de l'aéroport Halim à Jakarta en transportant 45 personnes. Mais peu de temps après, l'avion a disparu des écrans radar à une altitude de 1900 mètres. Enfin, le 10 mai 2012, Sukai Superjet 100 ont été vus dans les vallées du Mont Salak à Bogor. Sukhoi Superjet 100 avion s'est écrasé sur une valise rocheuse sur le Mont Salak. Le crash de l'avion a fait 45 personnes sont mortes. Sur la base des résultats d'une enquête du comité de la sécurité, Sukhoi Superjet, l'accident de Sukhoi Superjet dû à une erreur humaine. Le 9 mai 1994, Nelson Mandela élu président d'Afrique du Sud. Il a été officiellement assermenté comme premier président noir dans son pays, l'Afrique du Sud, ainsi démolir la politique apartheid qui favorise les Blancs. F.W. de Klerk a été nommé vice-président et le gouvernement d'unité nationale multiraciale a été formé. Le 9 mai 1992, l'Arménie a attaqué l'Azerbaïdjan. Le 9 mai 1992, les forces arméniennes ont commencé leurs attaques à l'Azerbaïdjan. La contradiction entre les deux pays est causée par la volonté des Arméniens qui habitent dans la région de Nagorno-Karabakh qui est situé à Azerbaïdjan, d'obtenir l'indépendance depuis 1923. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le conflit est de plus en plus pointu, causé par l'ingérence du gouvernement arménien. En 1992, l'Arménie a commencé son invasion de l'Azerbaïdjan, qui a tué des milliers de personnes, et le déplacement de 1,4 million de personnes. Bien qu'en 1993 a tenu un cessez-le-feu, mais la plupart du territoire azerbaïdjan sont encore occupés par l'Arménie et le conflit Nagorno-Karabakh n'est pas encore fini. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième antenne, voici donc la mise au point ayant pour le titre « Revitalisation du marché traditionnel comme réalisation du programme Nawacita ». Nawacita est un pilier du programme du gouvernement du président Joko Widodo et la vision et la mission du cabinet de travail dans les 5 années du règne. L'un des engagements de nos programmes prioritaires est d'améliorer la productivité de la population et la compétitivité sur le marché international. L'un des objectifs de Nawacita est de construire au moins 5000 marchés traditionnels et de moderniser les marchés existants dans toute l'Indonésie jusqu'en 2019. Dans un discours devant le président Joko Widodo lors de l'inauguration d'un marché traditionnel à Purwokerto, Java Central, mercredi, le ministre du Commerce Thomas Lembong a révélé que l'objectif de revitalisation du marché traditionnel pour 2015 a été atteint. Un communiqué de presse du ministère du Commerce a déclaré de l'objectif de 1017 marchés cibles, 1002 ont été revitalisés. Dans le plan de travail du gouvernement en 2015, le ministère du Commerce ciblait de revitaliser les 1017 marchés traditionnels. De ce nombre, 182 marchés ont été construits par les fonds de tâches d'assistance ou TP et 770 par le biais du fonds d'allocation spéciale et 65 marchés ont été construits par le ministère des coopératives et des PME. En ce qui concerne l'objectif de revitalisation du marché en 2016, le ministère du Commerce prévoit de construire 1000 unités de marché constituées de 220 marchés à travers des fonds de tâches d'assistance et 695 marchés à travers le fonds d'allocation spéciale. Le ministère des coopératives et des PME cible également à construire 85 marchés. La construction ou la revitalisation de 5000 marchés jusqu'en 2019 est priorisée pour les marchés qui existent depuis plus de 25 ans et les marchés qui ont souffert de l'incendie, post-catastrophe naturelle, conflit social, les marchés dans des zones défavorisées ou frontalières, ainsi que les zones qui manquent les installations commerciales ou les zones avec un grand potentiel commercial. Le ministre Thomas a dit que les marchés pouvaient fonctionner de manière optimale si les fonds alloués au gouvernement régional pour les construire sont utilisés au fond de signer et de sorte que cela fournit des avantages pour les commerçants. Dans le budget de l'État 2016, le ministère du Commerce a alloué 1,7 trillion roupiah pour la construction de 220 marchés traditionnels. Au cours des 5 prochaines années et avec une population de 252 millions, alors qu'un marché pourrait servir 50 000 personnes. Relatif à la revitalisation des marchés traditionnels, le président Jokowi a placé la première pierre de la construction du marché Mama Mama Papua à Jayapura à la fin d'avril. Comme cité par Republica en ligne, la présence du président en Papouasie a également marqué l'achèvement et la revitalisation des 15 marchés locaux dans les provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale. Le président Jokowi a dit aux gens de Papoua que les marchés traditionnels ne sont pas inférieurs aux centres commerciaux. Le président a fait appel à des parties liées pour achever la construction du marché Mama Mama dans les 10 mois. Auparavant, le président Jokowi a également inauguré le marché Hami Amat à Bima, Nusa Tenggara Ouest. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Le vice-président Yusuf Kalla ouvre le sommet international du modèle islamique à Balai Sidang, Jakarta, ce lundi. Ce sommet est tenu pour la première fois à Jakarta comme un effort d'influencer les politiques publiques dans la solution des problèmes de radicalisme et de terrorisme. Le président de Nahdlatul Ulama, Aqil Siroj, a déclaré lundi à Jakarta, le sommet international était assisté par les ulémas de Nahdlatul Ulama, des représentants de 33 pays étrangers, ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs des pays islamiques qui visent à créer la paix dans les pays dans la zone du Moyen-Orient. Saïd Aqil Siroj a ajouté, le conseil d'administration de Nahdlatul Ulama obtenait un message du président Joko Widodo pour organiser le sommet pour sachez le radicalisme en Indonésie et des pays voisins. Dans la troisième série de négociations de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, on est d'accord que la forme de coopération économique sera conçue pour être plus moderne et complète. Le président du groupe négociateur d'Indonésie, Dedi Saleh, a déclaré dimanche qu'en conformément à l'accord du ministre du Commerce, l'Indonésie et l'Australie ont convenu que le partenariat économique global Indonésie-Australie était la forme de la coopération économique globale et moderne, n'est pas l'accord de libre-échange traditionnel. Selon Dedi Saleh, la forme de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie serait mutuellement bénéfique et réalisable en produisant un accord préliminaire qui peut être réalisé immédiatement. La marine indonésienne donnera le transfert de technologie opérationnelle de navires de guerre stratégiques Sea Leaf Vessel BRP Tarlac au gouvernement philippin. Selon le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi, la participation de la marine indonésienne est nécessaire comme une forme de contrôle sur le processus de transfert de technologie. Ade Supandi a dit au port de Tanjung Perak, Surabaya, dimanche que le processus de transfert de connaissances pour la marine philippine était une forme d'apprentissage parce qu'il est un nouveau navire de guerre. Selon Ade Supandi, qui est également le commissaire du PT PAL Indonesia, Strategic Sea Leaf Vessel est le premier navire de guerre qui est exporté par l'Indonésie. À l'avenir, PT PAL ciblera les pays d'Asie du Sud-Est car le type Strategic Sea Leaf est convient pour la nation insulaire. Le gouverneur de Java Central, Ganjang Pranowo, représentant l'Indonésie, parle à la conférence internationale sur l'adaptation des changements climatiques organisée par la Commission européenne et le gouvernement néerlandais à Notre-Dame. Ganjang Pranowo sera l'un des 10 leaders mondiaux qui parlera de la gestion des catastrophes. Le gouverneur Ganjar Pranowo a dit le dimanche qu'il partagera des expériences sur la gestion des risques des catastrophes qui est expérimentée et sera faite. L'expérience sera utilisée comme une référence commune dans le monde. La conférence internationale sur l'adaptation des changements climatiques est une réunion stratégique des dirigeants et des activistes de la catastrophe dans une variété de disciplines scientifiques de divers pays. La conférence a débuté le 7 mai et terminera le 14 mai. Le président de l'Assemblée consultative populaire de l'Indonésie, Zulkifli Hasan, invite les Indonésiens à préserver le batik, en particulier le batik tulis. Zulkifli Hasan a conseillé aux artisans du batik d'unir dans l'organisation. Avec l'organisation, ils seront forts dans les efforts de se battre pour ces affaires. C'est ce qu'a affirmé Zulkifli Hassan lors de visiter le village de Batik Wiradesa à Pekalongan, Java Central, dimanche. À cette occasion, Zulkifli Hassan a dit « Le batik indonésien a été inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à la 40e session du comité intergouvernemental à Abu Dhabi en 2009. Ce prix montre que le batik est un travail remarquable. » Le Conseil de coordination des investissements, BKPM, a identifié l'intérêt des investisseurs néo-zélandais dans trois secteurs principaux d'investissement tels que le secteur du service soutenant la santé, le secteur de l'infrastructure, le traitement de l'eau basé sur les énergies renouvelables et le secteur de l'élevage de bœuf. Le chef de BKPM, Frankie Sibarani, dans un communiqué de presse le dimanche, a dit que le secteur intéressé était l'identification d'une visite de travail de 2 jours à ce pays. Il a expliqué qu'il y avait 3 entreprises des secteurs de services soutenant la santé, les infrastructures et le secteur agricole qui ont exprimé leur intérêt à investir en Indonésie. Il a ajouté qu'une entreprise de l'industrie de transformation du lait de la Nouvelle-Zélande, Fonterra, a également affirmé son projet d'élargir ses investissements en Indonésie. Il a expliqué que les intérêts de l'investissement pour le secteur des services soutenant la santé étaient entre autres les laboratoires cliniques. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter Grojogan Sewu, Java Centre. Chers auditeurs, votre visite est moins complète si vous êtes dans la ville de Solo, le centre de Java, mais vous ne visitez pas Grojogan Sewu Tawangmangu, qui est l'une des attractions touristiques préférées à Solo ou Surakarta. La cascade de Grojogan Sewu ou Mille Cascades fait partie de la forêt de tourisme naturel de Grojogan Sewu. Ce site touristique est situé au district de Tawangmangu, la résidence de Karangpandan, Java Centre, sur les pentes ouest du Mont Lawu ou Gunung Sewu, environ 27 km à l'est de la ville de Karanganyar. Grojogan Sewu, situé à une altitude de 1200 mètres au-dessous du niveau de la mer et à la distance de 37 km à l'est de la ville de Solo ou Surakarta. Grojogan Sewu peut être atteint par les transports publics qui prennent le temps environ 1 à 1 heure et demie. Ce site touristique est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 16h et de 6h à 18h pour l'Idul Fitr. Cerita, Grojogan Sewu est un lieu récréatif de la relique néerlandaise. Ainsi, ce n'est pas étonnant s'il y a des anciennes villas typiques de ce pays là-bas. Depuis l'époque coloniale néerlandaise, Grojogan Sewu est un lieu touristique excellent qui a été largement reconnu par les gens de Solo et ses environs. en raison de son emplacement dans la forêt protégée de 20 hectares. Cette destination touristique a un très beau paysage naturel combiné avec les frais de la montagne qui rend les visiteurs en particulièrement aimés quand ils sont dans ce lieu. Pour ceux qui aiment la photographie, en plus de beaucoup de pins et de singes, le débit de la rivière de la Cascade est aussi très beau pour un lieu de la photographie. Serviteur, la zone de la forêt naturelle de Grojogan-Sewu est dominée par des pins et des arbres typiques de la forêt tropicale. Ce forêt est aussi habité par les singes apprivoisés qui sont déjà habitués à la présence humaine. Les installations touristiques de la cascade de Grojogan-Sewu sont très complètes. Même lors d'entrée, les touristes sont accueillis par les aubergistes et l'hôtel prêt à accueillir les touristes nationaux et étrangers qui vont rester. Certaines autres installations sont le parc d'animaux, les piscines pour les adultes et les enfants, des aires de repos, des étals qui vendent les nourritures à des prix abordables et l'alimentation typique de cette région, le satay de lapin. Serviteurs et serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre Grojogan-Sewu, Java Centre. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous une fois de plus dans votre émission Apprendre l'indonésien, un programme qui vous aide à découvrir des mots et des expressions indonésiennes et vous présente un dialogue permettant de les utiliser. Notre sujet aujourd'hui est berkenalan ou en français, faire connaissance. Alors suivez-moi. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez les répéter après moi. Berkenalan. Berkenalan. En français, faire connaissance. Namasaya. Namasaya. En français, je m'appelle. Senang. Senang. En français, heureux. Ou heureuse. Berasal, berasal, en français, venir. Dari mana, dari mana, en français, d'où. America, America, en français, Amérique. Berapa lama, berapa lama, en français, combien de temps. Sembilan bulan, en français, neuf mois. Indonesia, Indonesia, en français, Indonésie. Tinggal, tinggal, en français, habiter. Sulawesi Selatan, en français, Sulawesi du Sud. Pekerjaan, pekerjaan, en français, travail. Bekerja, bekerja, en français, travailler. Guru, guru, en français, professeur. Bahasa Inggris, en français, anglais. Sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah atas atau SMA, en français, lycée. Sekarang, sekarang, en français, maintenant. Waktu, waktu, en français, temps. Makan siang. En français, déjeuner. Ngobrol. Ngobrol. En français, bavarder. Di kantin. En français, à la cantine. Bon, maintenant le vocabulaire et les expressions vont vous être donnés sous la forme d'une conversation entre Michel A et Poutri B. Je dirai chaque phrase deux fois, lentement. Vous pouvez suivre après moi. A. Allô, namasaya Michel. Allô, namasaya Michel. En français, allô, je m'appelle Michel. B. Allô, namasaya Putri. Allô, namasaya Putri. Allô, je m'appelle Putri. Senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. En français, je suis heureuse de faire connaissance avec vous. B. Anda berasal dari mana? Anda berasal dari mana? En français, d'où est-ce que vous venez? A. Saya berasal dari Amerika. Saya berasal dari Amerika. En français, je viens d'Amérique. B. Sudah berapa lama Anda di Jakarta? Sudah berapa lama Anda di Jakarta? En français, combien de temps vous êtes à Jakarta? A. Saya sudah 9 bulan di Indonesia. Saya sudah 9 bulan di Indonesia. En français, j'habite déjà en Indonésie pendant 9 mois. A. Tetapi saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi saya tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. En français, mais j'habite à Makassar, Sulawesi du Sud. B. Apa pekerjaan kamu di sana? Apa pekerjaan kamu di sana? En français, que faites-vous là-bas? A. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMA. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMA. En français, je travaille comme professeur d'anglais dans un lycée. B. Oh, menarik sekali. Oh, menarik sekali. En français, oh, c'est très intéressant. B. Sekarang sudah waktunya makan siang. Sekarang sudah waktunya makan siang. En français, maintenant il est temps pour le déjeuner. B. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan di kantin? Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan di kantin? En français, que diriez-vous nous bavardons tout en mangeant à la cantine? A. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. Serviteur, ainsi se termine votre programme Apprendre l'indonésien. Nous espérons qu'il pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous vous retrouvons demain avec un sujet différent. Merci pour votre attention. Au revoir.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Maintenant, aujourd'hui, vous allez écouter les chansons à rythme kroncong.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre langues du monde, voici le magazine des musiques, édition de lundi. Et ce magazine vous présente de tel ou tel genre musical à Indonésie. Pour ce soir, on vous présente une chanteuse de kroncong ubit. Chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de rythme de kroncong composée par ubit, Dian et Rizal Arshad, intitulée « Di bawah sinar bulan purnama ». Bon écoute.
¶¶
Chers amis, Obit, elle est née à Aceh, 24 mai 1965. Elle a complété sa formation musicale à l'Institut d'art de Jakarta et ensuite elle a obtenu le maîtriser en musique de ethnomusicologie de l'Université de Wisconsin-Madison, les États-Unis, et elle a obtenu son doctorat en même université. Tout est avec le programme de bourse. À propos de ses études, Obit apprend en enthousiasme au sujet traditionnel et art focal d'Indonésie et à l'étranger, en particulier de l'Afrique, de Corée et l'Espagne. Pour elle, approfondir les sens nouveaux est intéressant. Et elle est devenue une femme unique et elle peut trouver beaucoup de sens uniques. En tant que chanteuse, Obit explore de différentes sortes de genres musicaux, de la musique populaire, c'est-à-dire pop, jazz, et, par exemple, jusqu'à la variété de musique qui a la base de traditionnel d'archipel et la musique contemporaine. Elle a fait coopérer avec certains nombres de musiciens, groupes musicaux, ainsi que compositeurs célèbres. Avec Tony Prabowo, un compositeur de musique contemporaine indonésienne qui est connu dans la communauté mondiale, en particulier aux États-Unis, elle a produit diverses mises en scène et albums. Chers amis, afin de savoir plus, Obit, allons écouter la chanson de Kroncong chantée par Obit intitulée Aksi Kucing de son album Kroncong Tenggara. Bon écoute.
Apa ku nabung malu-malu kucing meong-meong di belakang suara suka bung, diam-diam kucing sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Kucing urusan kecil bisa jadi meruncing, salah paham bung karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Thank you.
sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing.
Chers amis, au but, son façon a commencé quand elle n'est pas satisfaite avec son style de chanter. Puis, au milieu des années 80, au but a commencé à cultiver des variétés de styles, de techniques et d'expressions de chant. Pour au but, la chanson est non seulement de produire des sons mélodieux, mais aussi cultiver son dissonance, hausse de synchronisation, par exemple, par circonscription et la voix autour d'elle. Quand Obit a rencontré Tony Prabowo en 1989, ils ont trouvé leur langage commun. Chers amis, c'était l'édition de Magazine de musique pour aujourd'hui. Et avant de vous quitter, écoutez deux dernières chansons de Obit intitulées Kroncong Tenggara et Gambang Semarang. Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.